La Méditerranée, un espace de culture et de civilisation. Un espace qui révèle une humanité en relation. Mais la Méditerranée, c'est aussi un lieu d'inégalité et d'injustice. Car vivre à Cannes, à Tunis ou à Tripoli, ce n'est pas la même chose. Certaines populations du bassin méditerranéen vivent dans le confort et une certaine sécurité, quand d'autres sont pauvres et menacés. Christian Salençon, prêtre du diocèse de Nîmes, théologien et fin connaisseur du dialogue interreligieux, s'intéresse particulièrement à la dimension sociale de cette zone géographique. Comment lutter contre les inégalités? Quelle place et quel accueil pour ceux qui ont tout quitté, espérant trouver une vie meilleure en Europe? C'est ce que nous allons évoquer avec lui. Je m'appelle Véronique Alzieux et vous écoutez La Méditerranée, une géographie de la rencontre. Troisième épisode, Justice, inégalité et migration, des défis pour la Méditerranée.
Déjà dans les représentations qu'on a, on a une représentation nord-sud. Et pour penser la Méditerranée, il ne faut pas la penser nord-sud. Parce que nous, nord-sud, on pense toujours... Maintenant, on pense les gens qui viennent du sud, la migration qui vient du sud, en gros. Mais c'est oublié qu'on a fait des migrations dans tous les sens. Et que donc, la fracture, elle n'est pas nord-sud, parce qu'on s'est déplacé pour aller à l'est. Hein. Quand on a fait les croisades, on est allé vers l'est, on n'est pas allé vers le sud. Il y a bien eu d'autres types de déplacements. Donc, c'est une vue franco-française de penser uniquement l'autre rive. C'est notre obsession. C'est parce qu'on a tellement mal vécu la colonisation et qu'on est incapable de vivre la décolonisation ou la post-colonisation qu'on est toujours obsédé par ça. Mais la Méditerranée, il ne faut pas la penser comme ça. Le Méditerranéen, il ne pense pas nord-sud. C'est une première chose. Ensuite, la fracture nord-sud, elle existe et elle a toujours existé. Elle a toujours existé parce qu'on a été... Comment je vais le dire ? Je vais le dire gentiment. Mais enfin, nous, ce qui est venu du nord, ça n'a jamais été beaucoup pour notre bien. Pour les Méditerranéens. Ce qui est arrivé du Nord, nous, ça a d'abord été les barbares qui ont envahi.
Et donc, ce qui venait du Nord, c'était l'envahisseur ?
Eh bien, c'était l'envahisseur, bien sûr. C'est le barbare. Il y a des pays qui ont été beaucoup abîmés aussi. Hein. Regardez, je pensais au projet qu'il y a eu de la part de l'Europe de faire un mouvement euro-méditerranéen. Bon, on voulait... L'Europe, tout d'un coup, s'est intéressée à la Méditerranée, voulait qu'on réunisse les rives de la Méditerranée pour passer des liens ensemble, etc., etc. Ils ont fait, le projet euro-méditerranéen a échoué, lamentablement, parce qu'évidemment, il était sous la tutelle de l'Europe et les autres pays étaient priés de bien vouloir entrer dans le projet qu'on avait déjà pensé pour eux. Ensuite, le projet a été essentiellement économique et il manquait le volet culturel. Alors, je ne parle pas du volet religieux qui était complètement absent. Mais ça n'a pas marché. Ça a capoté. Ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'on était encore dans une posture de riches du Nord qui s'intéresse aux pauvres du Sud. Et donc, ça ne peut pas marcher.
Parce que c'est quelque chose qui est plaqué ?
Mais bien sûr. C'est plaqué et ça reste condescendant.
La question du pauvre du Sud, elle nous conduit immanquablement à la question migratoire.
Oui.
Les migrations, même si vous avez dit qu'il y a eu des échanges dans tous les sens... Depuis longtemps, la migration, elle se vit dans le sens du sud vers le nord, Christian Salençon.
Oh, c'est juste le renversement de la migration précédente qui était du nord vers le sud. Quand on est allé conquérir l'Algérie au 19e siècle, c'était une migration du nord vers le sud.
Est-ce que c'était une migration ?
Mais bien sûr, c'est un déplacement de population, c'est une migration. Les raisons de la migration peuvent être diverses, mais c'est une migration. Donc on est allé conquérir les pays du Sud. On a fait cette migration dans ce sens-là. Ça ne nous a pas posé problème. Hein. Maintenant, on a une migration qui peut être du Sud vers le Nord. Et on a des discours dessus qui sont en désaccord complet avec la réalité.
C'est-à-dire ?
Mais, je ne me prononce pas sur les politiques migratoires qu'il faut faire parce que ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas les compétences. Et il faut des politiques migratoires.
Alors, clair. Vous parlez à quel titre, là ?
Alors, je parle à mon titre de théologien. On a besoin des autres. On a besoin des autres théologiens, hein. On a besoin des autres, absolument. Mais même dans des données aussi constatables, statistiques que l'économie, on sait très bien qu'on a besoin de migration pour la démographie. Mais ça, c'est envahi par l'idéologie...
Du grand remplacement.
Du grand remplacement par une espèce d'idéologie de droite extrême, et ça fait nier la réalité. Alors qu'il y ait des problèmes migratoires, évidemment, il y a des problèmes migratoires, il ne faut pas les nier, mais les problèmes migratoires, ils ne sont pas tout à fait là où on le dit. On a besoin de la migration.
Voilà. Où sont-ils, les problèmes migratoires, alors?
Les problèmes migratoires, ils sont plutôt, à mon avis, mais c'est là je sors de mon champ, mais une politique migratoire doit être une politique d'accueil, c'est-à-dire de penser l'accueil, de le penser comme il faut, c'est-à-dire de permettre à des gens, effectivement, de passer de là où ils sont, au pays, dans le pays où ils arrivent, avec tous les sas dont ils ont besoin, à commencer par la langue, par l'apprentissage de la langue, par l'apprentissage de la culture, etc. etc. Voilà. On aurait besoin de ce travail-là.
En ça, vous êtes complètement raccord, si j'ose dire, avec le pape François.
Oui, complètement. Complètement. Ben, écoutez, si j'ai fait partie du petit groupe d'élaboration de sa venue à Marseille, et si on a voulu qu'il dise quelque chose, et s'il était d'accord pour le faire, bien sûr, à Notre-Dame-de-la-Garde, avec tous les représentants des religions de Marseille, et ils étaient nombreux sur la migration, c'est qu'on pensait qu'il y avait des choses à dire. Ce qui se passe de manière migratoire, c'est le naufrage de notre civilisation, ce qu'il en reste.
De la question et des enjeux de justice, justement, et de ceux qui disent qu'on ne prend pas le problème à sa racine, de façon à ce que ces personnes qui sont tentées par la migration, qui sont tentées de quitter leur pays, viennent parfois vivre dans des conditions misérables dans nos pays riches. Est-ce que la question n'est pas de faire en sorte qu'ils trouvent une dignité et de la justice dans leur pays d'origine ?
Si, et en plus, on ne fera que rendre justice par rapport à l'histoire. Ce sera un juste retour des choses que de leur permettre de vivre dignement dans leur pays. Si, je pense que c'est une des raisons, oui. Après, il faut qu'il y en ait qui viennent quand même, hein, parce qu'on en a besoin. Hein. On en a besoin pour sortir de nos étroitesses, de toute manière, pour enrichir notre culture. C'est une nécessité. L'autre est une nécessité.
Mais quitter son pays, Christian Salençon, ça reste souvent un déracinement.
Oui.
Et une souffrance,
oui.
Une douleur.
Oui, complètement.
Donc, aider ces personnes à trouver un équilibre, de quoi subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille, de leurs enfants, dans la dignité, comment ça peut se mettre en œuvre ?
Au-delà des discours politiques, c'est ce qui se fait plus ou moins bien. Mais c'est ce qui se fait. De toute manière, la migration, elle a lieu.
Quoi qu'on fasse.
Chacun raconte les discours qu'il veut. Mais de fait, elle a lieu, quel que soit le gouvernement, jusqu'à ce jour, toujours les migrations ont eu lieu. Elles auront toujours lieu de toute manière, parce que des gens qui meurent de faim, vous pouvez mettre les barrières que vous voulez, ils sortent les barrières, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc elle se fait. Le problème, c'est qu'on pourrait l'organiser et pas la subir. Un, ça serait quand même plus confortable pour les gens qui viennent. Et deux, ça nous permettrait, nous, de mieux gérer les migrations.
Puisqu'on essaie d'éclairer chacun de ces thèmes à la lumière de l'Évangile et de la réflexion théologique, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans l'Évangile, la question de l'accueil de l'étranger est à peu près dans toutes les pages. J'exagère un peu,
mais il n'est
question que de ça.
Mais oui, mais vous avez tout dit, c'est la question de l'hospitalité. L'hospitalité est quelque chose d'extraordinaire parce que ça transforme celui qui accueille l'hospitalité et ça transforme celui qui reçoit l'hospitalité. Je ne me rappelle plus le nom français pour désigner cette figure de style qui signifie que le mot « hôte » désigne aussi bien celui qui accueille que celui qui est accueilli. Tous ceux qui ont vécu l'hospitalité, qui ont été réellement accueillis, ont été profondément transformés. Et tous ceux qui ont réellement accueilli ont été aussi complètement transformés. Et les uns et les autres en bien. Un Charles de Foucault, par exemple. Un Charles de Foucault, il a commencé sa conversion quand il était en exploration au Maroc, et c'est l'accueil des musulmans, il y a deux choses, il y a l'accueil et la manière dont les musulmans priaient, qui l'a mis en route vers sa conversion. Si vous prenez Louis Massignon, il a été converti par l'accueil que lui réservait la famille des Alousis à Bagdad en 1908. Si vous prenez
Christian de Chergé, alors, n'a pas été converti à proprement parler, il était déjà croyant, mais enfin, ça a été un virage dans sa vie.
Oui, 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 c'est une vraie conversion. On peut parler de mon conversion. D'accord. Il a été converti aussi par la rencontre avec Mohamed. Ouais. Bon, et tous ceux qui ont vécu l'expérience de l'hospitalité, par exemple dans le monde arabe, parce qu'il y a une tradition d'hospitalité qui est beaucoup plus forte que chez nous, tout cela ont été transformés.
Qu'est-ce qui transforme dans l'accueil?
Je me suis souvent posé la question. Parce qu'au vu de tous ces grands témoins, je me suis dit, mais comment ça se fait que l'hospitalité ait une telle force de transformation de la personne? Je ne prétends pas, je ne sais pas si j'ai reçu la réponse. Mais je pense que le fait d'être accueilli inconditionnellement, car c'est ça l'hospitalité, le fait d'être accueilli inconditionnellement, ça fait découvrir à la personne une valeur qu'elle ne s'imaginait pas.
Une valeur propre, vous voulez dire ?
Ouais. Une valeur propre.
Elle vaut la peine ?
Elle vaut la peine d'être accueillie inconditionnellement. Oui. Et parce que l'hospitalité véritable, comme le disait Saint Jean Chrysostome, consiste à ne pas demander à celui que l'on accueille vraiment exactement qui il est. Saint Jean Chrysostome dit que si Abraham avait demandé aux visiteurs, aux trois visiteurs, aux chaînes de membrés, ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, ce qui, etc., leur curriculum vitae, peut-être qu'ils ne les auraient pas accueillis. Donc, il dit ça avec humour. Et donc, tout ça pour dire que l'hospitalité dit à la personne qui est accueillie qu'elle vaut, qu'elle a de la valeur. Et chacun d'entre nous, on a besoin d'une grande reconnaissance pour exister. Alors, habituellement, on l'a par les gens qui nous aiment, par les gens qui nous entourent. Mais là, ça dit à la personne une valeur que parfois elle n'imaginait pas. Je pense que Charles de Foucault, qui avait mené une vie de barreau de chaise avant de partir à son expédition, qui avait sûrement une très mauvaise image de lui-même, a été profondément transformé par le regard d'hospitalité qui a été posé sur lui.
Et comment et pourquoi, pour terminer, celui qui accueille, est-il transformé lorsqu'il accueille ?
Il est transformé parce qu'il accueille, parce qu'il s'est mis en disponibilité de recevoir ce qu'il n'avait pas prévu. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'est mis en irontologie d'accueillir la grâce. Mais pour le dire en français courant, quand on accueille comme ça quelqu'un, qu'on ne connaît presque pas, on l'accueille, ça veut dire qu'on est disponible pour éventuellement ce qui va nous dire, nous faire connaître, nous faire entendre ce qui va se passer. Et donc on est en attitude de disponibilité et on n'est pas dans la maîtrise des choses. Voilà. Et ça transforme énormément. Parce que surtout nous les Occidentaux, qui sommes toujours en train de vouloir programmer, maîtriser, contrôler, évaluer, alors pour le coup, tout ça n'existe pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il se passe souvent des grandes choses, telles ma princesse marseillaise qui, accueillant le beau grec Protis, va se trouver transformée, va être aimée et va fonder la ville de Marseille.
Justice, inégalité et migration, voilà quelques-uns des défis auxquels doivent faire face les pays qui bordent la mer Méditerranée. Des défis considérables et complexes. Mais ce qui lie les peuples méditerranéens constitue un socle qui favorise le dialogue, condition nécessaire pour relever ces défis et développer la fraternité. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. À bientôt !